Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Avant de développer l'actualité du jour, nous vous proposons ce matin sur RTL un document exceptionnel. Avec les nombreuses affaires de pédophilie, l'Église veut prouver sa bonne volonté.
Agnès. Oui, c'est dans ce cadre qu'en parallèle des témoignages des victimes, les archives du clergé sont également étudiées de près. L'objectif est simple, comprendre comment les cas de prêtres pédophiles ont été traités et comment la politique de l'Église a évolué. Il est très rare de pouvoir accompagner des historiens chercheurs dans ce travail. RTL a obtenu cette autorisation et a pu se rendre dans les sous-sols de l'église de France d'Issy-les-Moulineaux. Un reportage en immersion de Marie Guerrier.
Accès interdit au public.
Exactement.
Il faut descendre l'escalier en ciment à la suite du responsable des lieux, Valentin Favry.
Voilà un magasin type Pinkarchi.
Des rayonnages du sol au plafond, à l'abri de la lumière, température constante, autour de 18 degrés.
On a 6 km linéaires d'archives, que du papier.
C'est là que se trouvent les archives du secours sacerdotal qui avait pour mission, dans les années 50-60, de venir en aide aux prêtres en difficulté. Les cas douloureux, disait-on à l'époque. Paul Herriot et Philippe Portier ont commencé à exhumer les dossiers.
Il est très rare que nous tombions sur un dossier pédophilie. Il faut donc que nous allions de dossier en dossier pour reconstituer le puzzle.
C'est la première fois que ce fonds est exploré par des chercheurs ou des gens en dehors de l'Église.
C'est la première fois que, sur dérogation, nous avons l'autorisation de pouvoir le consulter.
Dans chacune des boîtes, il y a une dizaine de dossiers correspondant à 10 diocèses. Et dans ces dossiers, il y a des feuillets qui concernent des cas douloureux.
Ça peut être des prêtres qui sont partis, des prêtres qui ont des enfants, des prêtres qui sont alcooliques, des prêtres qui sont dépressifs.
Et puis, de temps à autre, un dossier qui concerne un prêtre pédophile.
Parfois, l'écriture peut être difficilement lisible. Vous en avez un ici. Un nom, une date et la mention interné. Il y a la date, voilà.
Et donc, 1959. Vous
voyez, c'est une piste.
Pour ce qui concerne les prêtres pédophiles, on indique très souvent qu'ils ont pu être traités à Cambo, à Gargenville. L'Église, dans ces années-là, sous-traite les cas difficiles dans un certain nombre de cliniques afin de les soumettre à un traitement psychologique, parfois un traitement psychiatrique et psychanalytique censé les sortir du mauvais pas où ils se trouvent.
Là, rien ne dit qu'il n'est pas retourné en paroisse ensuite.
Ah,
là.
Mais très souvent, c'est qu'il y a des retours en paroisse. Il peut y avoir à un moment donné des changements de diocèse.
Donc on fait du recoupement. Là, on a le nom, on a le diocèse, il faut aller chercher les informations.
C'est la prochaine étape, visiter les archives d'une vingtaine de diocèses, mais le délai est court. Il faut rendre un rapport d'ici à la fin de l'année.
Moi, je prendrais volontiers une année, voire 2 ans de plus. On espère pouvoir arriver quand même à traiter une centaine de cas bien approfondis.
Ce qui permettra de dire que c'est une enquête historique et sociologique fiable.
RTL en immersion, un reportage signé Marie Guerrier à réécouter évidemment sur notre site rtl.fr. Le procès d'un homme débute aujourd'hui, mais c'est notre conscience à tous qui va être interrogée. En 2016, Tony, 3 ans, est mort sous les coups de son beau-père à Reims. Loïc Vental va donc comparaître, on lisait, devant les assises de la Marne. La mère de l'enfant, elle, est également poursuivie pour non-assistance à personne en danger. L'enfant était roué de coups, pleurait, criait. Et pourtant, personne dans le voisinage n'a signalé le calvaire de cette petite victime.
RTL Matin, 8h03.
Emmanuel Macron attendu au tournant aujourd'hui sur la question du handicap. C'est l'une de ses principales promesses de campagne.
3 ans après son élection, une conférence nationale est organisée à l'Élysée. Des mesures fortes devraient être annoncées. En tout cas, les associations et les familles concernées l'espèrent. Le jour n'a pas été choisi par hasard. En 2005, Jacques Chirac avait ouvert la voie. Mais pourtant, pendant 10 ans, on était au point mort concernant l'accessibilité.
D'où une ordonnance en 2015 pour remettre la machine en route. Après l'adoption de cette loi handicap, les lieux qui reçoivent du public sont-ils enfin accessibles? Eh bien, c'est la question du 8h.
Et c'est avec vous, Christophe Ponzio, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que l'ordonnance adoptée en 2015 a véritablement corrigé le tir? Fiasco ou pas?
Alors fiasco non, hein. Au contraire, gros coup d'accélérateur. Selon nos informations, on est passé de 50 000 établissements rendus accessibles entre 2005 et 2015 à depuis plus de 700 000 musées, centres commerciaux, bureaux de poste, mairies ou gymnases désormais conformes pour accueillir des personnes en situation de handicap. Cela veut dire 14 fois plus de bâtiments accessibles en 2 fois moins de temps. Pour autant, le travail reste colossal. Les gares ferroviaires, par exemple. Alors là, ça bouge, mais 60% d'entre elles ne sont toujours pas aux normes. Et puis, pour les plus petits établissements, les commerces de proximité ou les locaux des professions libérales, là encore, les travaux se font attendre. Les coûts d'installation de rampes ou d'ascenseurs sont souvent jugés exorbitants. C'est d'ailleurs pour cela que 9 personnes sur 10 estiment encore aujourd'hui rencontrer des difficultés d'accessibilité dans leurs déplacements quotidiens.
Et il n'y a pas de sanctions pour les mauvais élèves, Christophe ?
Alors si, hein, elles sont prévues, 45 000 euros d'amende et jusqu'à 6 mois de prison en cas de récidive si aucun travaux ou aucune démarche n'ont été lancés pour aider les personnes handicapées. Risque pénal aussi, mais dans la pratique, rien. Les contrôles d'accessibilité viennent seulement de commencer. Les pouvoirs publics préfèrent miser sur la pédagogie alors que 80% des handicaps ne sont pas visibles sans canne, béquille ou fauteuil roulant.
La question de 8h avec Christophe Ponzio. Et après cette conférence, Emmanuel Macron va devoir se livrer à un tout autre exercice, une séance de calinothérapie.
Oui, comme on dit, les députés de la majorité sont conviés à l'Élysée au programme Remonter le moral des troupes qui en a pris un sacré coup la semaine dernière, notamment avec la polémique autour du congé de deuil parental. Quand Emmanuel Macron s'en est mêlé en demandant aux parlementaires de faire preuve de plus d'humanité, il y a eu comme un hic, ça a eu du mal à passer. Et ce soir, donc, Vincent Derosier, ses missions réconciliation.
Oui, après les engueulades et les assiettes cassées en famille, c'est l'heure des embrassades. Le mot d'ordre lancé par l'Élysée, unité et cohésion avec les députés. Ce sera une messe de réconciliation en prime time au palais, s'amuse un proche d'Emmanuel Macron. Un moment très attendu par les députés de l'Hérault et de Côte d'Or, Coralie Dubost et Didier Paris.
Ce qui est important pour moi, c'est d'être en permanence dans l'ajustement entre ce qui est fait d'un point de vue de l'exécutif et ce qui peut être fait du point de vue parlementaire. Mais j'ai pas besoin qu'on me félicite ou qu'on me dise prévu des bons points, sinon j'aurais pas fait parlementaire.
Ça sert à renouer des liens, à se comprendre, parler des difficultés. Et les rendez-vous avec le président de la République ne sont jamais des rendez-vous de façade.
Et d'après nos informations, il n'y a pas que le président qui va devoir recoller les morceaux avec les députés. Un message a été passé pour que tout ministre qui se déplace en France veille bien à avertir le député de la circonscription. Enfin, le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau, lui, prendra du temps le dimanche pour recevoir les parlementaires qui en ont le plus besoin.
À Vincent Derosier du service politique de RTL, à pratiquement un mois du premier tour des municipales, le sujet sera sûrement abordé à l'Élysée ce soir. Sachez qu'RTL continue son tour de France pour cette campagne. RTL près de chez vous. Demain, ce sera à Lille. 61 attentats évités depuis 2013. C'est ce qu'a annoncé Christophe Castaner sur notre antenne tout à l'heure. Le ministre de l'Intérieur était votre invité, Yves.
RTL Matin, 8h07.
C'est la première sanction du genre depuis l'entrée en vigueur de la loi alimentation.
Amende salée pour Carrefour, Système U et Intermarché. Ces 3 enseignes se sont vues infliger par la DGCCRF plus de 4 millions d'euros de pénalités. Motif, elles n'ont pas respecté la date butoir du 1er mars pour clore les négociations avec les fournisseurs. Une pratique qui permet de faire pression sur eux. Cette pratique est désormais très encadré par la nouvelle loi Egalim. Une amende, donc, c'est un message très très fort envoyé à la grande distribution, comme l'explique Yves Puget, le directeur du magazine spécialisé LSA.
On voit bien la rapidité pour une fois de la DGCCRF et là veut tout simplement prévenir les distributeurs 3 semaines avant la fin des négociations commerciales 2020 en leur disant « vous avez tout intérêt à terminer en temps et en heure ». Donc on est un petit peu dans de la communication, la DGCCRF, qui prévient juste 3 semaines avant les distributeurs. Regardez, l'année dernière, vous n'avez pas tenu les délais, vous avez intérêt à les tenir.
Yves Puget, le directeur du magazine spécialisé LSA avec Thomas Dulin pour RTL.
Et dans un instant, encore une sortie remarquée de Donald Trump. Selon lui, le coronavirus va disparaître tout seul avec le printemps.
RTL, 8h08. Vous, ça change tout.
RTL Matin.
RTL, 8h10, la suite du journal. Agnès Bonfillon, Yves Calvi.
Et ce matin, une nouvelle sortie de Donald Trump fait beaucoup parler.
Oui, le président américain affirme que le coronavirus, qui, on le rappelle, a déjà fait plus de 1000 morts en Chine, que ce virus disparaîtra tout seul au printemps.
Le virus dont on parle, beaucoup de gens pensent qu'il devrait disparaître en avril avec la chaleur. Donc il devrait s'en aller en avril, ce sera bien.
Une Trumperie de plus ou pas ? Le président des États-Unis est-il véritablement sérieux quand il dit ça ? Et surtout, Odile Pouget, sur quoi s'appuie-t-il ?
Eh bien, le président américain se fonde sans doute sur le fait que les virus n'aiment pas la chaleur. En laboratoire, par exemple, la technique pour les inactiver consiste à les chauffer à plus de 50 degrés. Ensuite, lorsque l'air est chaud et sec, les micro-gouttelettes à l'intérieur desquelles se trouve le virus restent moins longtemps en suspension, s'évaporent plus rapidement, cela fragilise le virus et limite ainsi la transmission. Et l'on sait que, comme la grippe, le coronavirus chinois se transmet par voies aériennes, par des postillons émis à moins d'1,50 m. Maintenant, tous les scientifiques le disent, il apparaît bien présomptueux de faire la moindre prédiction. Aucun virus ne se ressemble. Leur disparition dépend de multiples facteurs. On rappelle bien sûr que l'épidémie se poursuit, qu'on ne sait absolument pas quand le pic sera atteint. Et d'ici l'arrivée du printemps, ce sont évidemment les mesures d'endiguement de l'épidémie qui seront vraiment déterminantes.
Merci beaucoup pour ces précisions, Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. En France, on le rappelle, aucun cas de coronavirus n'a été détecté en Haute-Savoie après les tests réalisés au Contamine Montjoie.
RTL 8h12.
Elle est née le 11 février 1904 et ce matin nous avons la chance, puisqu'elle nous écoute, de souhaiter un très joyeux anniversaire à Sœur André.
Mais oui, doyenne des Français, des Européens et vice-doyenne du monde, s'il vous plaît. Elle se tient au courant de l'actualité, Sœur André. Pour la centenaire, pas question de décrocher. Et elle a accepté de vous recevoir pour RTL, Hugo Hamelin.
C'est dans sa maison de retraite toulonnaise que Sœur André va fêter ce matin son anniversaire. À 116 printemps, ça se prépare.
Durement, parce que je suis fatigué. À 116 ans, on n'est pas comme à 20 ans. Il y aura ma famille, mais très peu cette fois-ci. J'aurais dit, s'il vous plaît, ne venez pas en nombre, je ne suis pas capable.
Sœur André écoute les infos chaque jour à la radio et porte un regard espiègle sur l'actualité. Elle a par exemple un avis bien tranché sur la crise des gilets jaunes.
Qui ferait mieux de se taire et d'adoucir les mœurs?
Parce que vous trouviez qu'ils étaient un peu trop énervés?
Ils exagèrent maintenant. Et les riches aussi, il ferait bien de penser qu'il y a plus pauvres qu'eux et qu'il faudrait les aider au contraire.
Début d'année oblige, j'ai demandé à notre doyenne ce qu'elle nous souhaitait pour l'année 2020.
Oh, que la paix règne et que l'amour envahisse le monde.
Un joli souhait qu'elle m'a promis de réitérer au moment de souffler toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire.
Et une belle rencontre signée Hugo Hamelin. Encore un bel anniversaire à Sœur André, qui a une très jolie voix pour quelqu'un qui se dit fatigué, non?
Nous sommes d'accord.
Alors, il n'y a pas d'âge pour être un héros, sachez-le. Lui a 99 ans de moins que Sœur André. Il a eu le réflexe d'appeler les secours pour sauver sa grand-mère. Cette dernière faisait un malaise cardiaque. Bravo au petit William de 7 ans qui, pour cela, a reçu une médaille. Pour cet acte de courage, donc, de bravoure. Il veut être policier quand il sera grand. Ça tombe plutôt bien, c'est bien parti, non?
C'est très bien parti. C'était le journal d'Agnès Bonfillon. À 8h30.